Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. Alors nous avons ce mercredi 20 mai délocalisé notre studio Place Raspail à la Ricamari pour la journée des droits sociaux, pour de nombreuses discussions en direct tout au long de cette journée sur le 90.9 FM de Radio Ondaine, sur les www.radio-ondaine.com, le DAB+, et les applications mobiles. La journée des droits sociaux, seconde édition, s'inscrit dans l'expérimentation Territoire Zéro Non Recours, et cet événement complète l'action menée par la ville de la Ricamari pour informer les habitants des prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre sans y faire forcément appel. Logement, santé, jeunesse, accès au droit emploi, autant de pôles représentés aujourd'hui à travers différents espaces où des agents, des représentants de structures sont présents pour répondre aux sollicitations du public. Alors méconnaissance, barrière de la langue, fracture numérique sont des freins identifiés qui accentuent les inégalités. L'écoute de proximité va résumer donc cette journée où un grand nombre d'institutions, de structures, d'associations, je le répète, sont présentes ici pour répondre aux interrogations des habitants de la Ricamari, de la vallée de l'Ondaine, de Saint-Étienne Métropole. Et pour ouvrir cette journée, c'est une première table ronde, il y aura plusieurs rendez-vous. Et nous sommes avec Cyril Bonnefoy, maire de la Ricamari. Nous sommes avec Delphine Bonjour, responsable plaidoyer au Secours catholique et membre du comité de pilotage TZNR au niveau national. Fabrice Paris, sous-directeur de la CARSAT Rhône-Alpes. Nous avons également David Ravel, directeur de l'accès aux droits, aux soins, à la prévention au niveau de la CPAM. Et puis Dominique Vienne, membre du Conseil national à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion pour ATD Quart-Monde et également du pacte du pouvoir de vivre. Alors bonjour à tous les cinq et bienvenue donc sur ce plateau radio délocalisé, et peut-être laissons la parole pour ouvrir cette discussion et puis cette présentation à Cyril Bonnefoy, maire de la Ricamari, pour présenter à nouveau, s'il le faut, ce qu'est finalement ce dispositif TZNR. On emploiera régulièrement ses initiales et ça veut dire territoire zéro non recours. Allez-y, prenez le micro, c'est en route.
Ben, mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs. Simplement quelques mots. Cette initiative du territoire zéro non recours est partie du pacte de pouvoir de vivre qui sont venus me solliciter pour rentrer dans une dynamique nouvelle qui permette à des habitants en difficulté d'accès au recours, d'accès au droit, d'avoir une forme de travail qui s'ouvre pour permettre l'accès au droit qui est un peu en difficulté et particulièrement dans les quartiers en fragilité sociale. Donc on sait qu'un tiers des gens éligibles au RSA ne demandent pas le RSA, contrairement à ce qui peut être dit. On sait qu'aujourd'hui l'accès au droit, même à la santé, devient un peu difficile eu égard à l'éloignement et la carence médicale et la carence de certains praticiens et de certains corps de métier. On sait également que la CARSAT, au regard de la complexité de l'accès au droit, eh ben, elle est plurielle, elle est en difficulté surtout dans des parcours de vie qui sont complexes, avec une carrière professionnelle qui est assez éclatée, avec des lois qui ont changé en cours de vie, hein, tout simplement, et notamment sur la question de l'accès au droit pour les ayants droit d'accès à la retraite de personnes décédées. Et puis nous savons également que, de manière générale, l'accès au droit s'éloigne quand on enlève de la proximité, et c'est tout l'intérêt de cette journée des droits, parce qu'elle permet d'avoir une horizontalité de fonctionnement avec des services qui, malheureusement, mais c'est lié aujourd'hui à l'évolution de la société, se sont éloignés pour divers motifs, notamment l'électronisme un petit peu de l'ensemble des services, et également les carences en moyens aussi humains et matériels des différents services de la sécurité sociale et de l'ensemble des partenaires qui travaillent sur l'accès aux droits. Donc on a tout un travail qui a été pensé depuis un certain temps, et c'est au cœur de ce constat-là que la ville de la Ricamari, en lien avec les bénévoles et les associations qui sont membres du pacte de pouvoir de vivre, ont construit ce projet de territoire zéro non recours. Ça s'inscrit également dans une dynamique nationale parce que plusieurs territoires au niveau national sont dans la même dynamique, de sorte à ce que ces événements et ces expériences de territoire de proximité remontent au niveau national pour pouvoir peut-être amender des fonctionnements, pour faire en sorte que ça se décline avec des propositions nationales à partir de constats réalisés dans chaque territoire zéro non recours au niveau national. Donc il y a une dynamique locale, il y a des expériences locales, et de ces expériences locales, il y aura peut-être une influence nationale de fonctionnement qui sera le produit de nos réflexions collectives de l'ensemble des territoires zéro non recours disséminés au niveau national.
Alors ce sera aussi l'objet de cette première discussion hein, au niveau de l'impact qu'a ce dispositif TZNR, mais peut-être parlons du côté des institutions ici représentées par donc David Ravel au niveau de la CPM et puis à la CARSAT avec Fabrice Paris. Cette notion de non-recours, comment ça existe au sein de vos institutions? De quelle manière c'est considéré? De quelle manière c'est pris? Allez-y, prenez peut-être la parole, mais cette notion-là, finalement, de non-appel à ces prestations, comment c'est réfléchi au niveau de vos structures que vous représentez, Fabrice Paris?
Alors, nous avons des équipes qui sont dédiées sur la question du non-recours. C'est pris de la manière suivante, avec une stratégie qui est d'accompagner, à la fois d'accompagner naturellement les partenaires, et notamment je pense aux travailleurs sociaux, parce que comme monsieur le maire l'a dit, la législation retraite est complexe, donc il nous faut à chaque fois aussi mettre à niveau, si je peux me permettre, les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent réaliser leur travail dans les meilleures conditions. Et puis c'est sur le terrain, soit à travers les TZNR, soit avec ce qu'on appelle, grand mot, le data mining, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des données. On va étudier, par exemple, sur l'allocation de solidarité des personnes âgées, l'ASPA, la potentiabilité d'exigibilité. Et à partir de là, eh bien, on va avoir des actions téléphoniques, des actions par courrier, parce qu'on sait aussi que la question, par exemple, de la barrière de la langue au téléphone peut être compliquée. Un travail de simplification aussi de nos courriers, de vulgarisation de ce qu'on va dire. Donc c'est un travail de tous les jours. Il faut avoir en tête que sur l'ensemble de la région, depuis 2023, nous avons accompagné plus de 37 000 personnes sur la question de l'accès au droit et de la lutte contre le non-recours, avec, et j'en terminerai par là, deux cibles importantes, je le disais, l'allocation de solidarité des personnes âgées et des pensions de réversion, qui sont une vraie problématique. Aujourd'hui, on estime 10 à 15% de personnes qui n'ont pas recours à la pension de réversion. Avec un système, je vous donne juste cet exemple qui est complexe en retraite, vous avez des règles pour le régime général, le régime de base que je représente, qui sont fixées, et puis le régime complémentaire, représenté par Gicarco, qui a d'autres règles. Donc en fait, on a finalement souvent, en retraite, une double information à faire pour s'assurer vraiment que ce soit le plus compréhensible possible. Et puis, très sincèrement, ici à la Ricamari, lors de la première édition, on a pris la décision à la CARSAT Rhône-Alpes de mettre en place une permanence, parce que vraiment, on s'est aperçu que c'était pour nous un moyen aussi de toucher au plus près les assurés actifs les plus fragilisés.
Alors, même question pour David Ravel. Le constat au niveau de la CPM, quel est-il ?
Oui, déjà peut-être reprendre cette notion d'inégalité territoriale de santé, voilà, qui est une vraie réalité, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, avec peut-être deux chiffres. Un premier chiffre, c'est sur la complémentaire santé solidaire. Une personne sur trois quasiment aujourd'hui pourrait prétendre à cette complémentaire et ne le fait pas pour différentes raisons, hein, qui peuvent être parfois de méconnaissance ou tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas le droit. Donc c'est important d'avoir ces informations. Peut-être un deuxième chiffre aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est sur la prévention. C'est que 10% des personnes les plus aisées ont deux fois plus accès au dépistage que 10% des personnes les moins aisées. Donc on a des vrais écarts à la fois populationnels et territoriaux, et c'est là-dessus effectivement qu'on essaye de travailler avec une double stratégie, mais qui est finalement assez proche de celle de mes collègues au niveau de la CARSAT. étapes. La première, c'est sur la question de l'aller vers, c'est-à-dire que des personnes qui justement ne font pas ces démarches-là, c'est important de venir auprès d'elles, et c'est ce qu'on fait, puisqu'on fait à peu près 200 allées vers sur le département. On l'a doublé, nos allées vers sur le département, et on touche à peu près 3000 personnes chaque année, voilà, qui sont accompagnées spécifiquement, et des personnes qui vraisemblablement ne viendraient pas directement dans les accueils, et donc c'est important cette démarche. Puis deuxième démarche qui est de plus en plus en train de se mettre en place et sur lesquelles les territoires zéro non-recours, je pense, ont été vraiment facilitants, c'est la question de la partage d'informations et la partage de données. C'est-à-dire qu'on a tous des bases de données, mais qu'à un moment donné, on a des zones d'ombre. Finalement qu'on peut essayer d'éclairer au travers du partage d'informations. C'est ce qu'on essaye de faire notamment avec la CAF, où on partage des fichiers pour savoir la connaissance des familles monoparentales, par exemple, et celles qui pourraient pouvoir prétendre à des aides, notamment sur la complémentaire santé, comme je vous disais, parce que c'est un vrai sujet. Et donc on essaie de partager ces informations-là pour pouvoir toucher ces personnes-là, notamment au travers d'appels téléphoniques, différentes démarches d'aller vers, cette fois pas physique, mais voilà, qu'on essaie de mettre en place aussi.
Alors si l'on reste un peu sur cette question-là, et si l'on parle de vos collaborateurs dans chacune de vos structures, leur rôle, est-ce qu'il a changé? Est-ce que maintenant on va... l'aller vers, on le comprend, mais est-ce qu'on va... aller chercher ceux qui ne demandent pas nominativement. Est-ce que ça, c'est l'objectif? Et qu'est-ce que ça change dans vos services? Parce qu'on sait que vos services, c'est finalement accueillir la personne qui fait la démarche de venir. Alors, comment on inverse la chose?
Je crois que la sécurité sociale, de manière générale, a dépoussiéré ses pratiques. On est passé en proactivité avec des appels sortants qui nous permettent, même quand on traite un dossier, par exemple, toujours, plutôt que d'envoyer un courrier, on va appeler systématiquement pour entrer en contact avec nos assurés, pour faire en sorte que ça soit plus rapide, notamment quand il y a urgence. Donc ça a été un changement de philosophie, hein, clairement, pour nos agents. Et aujourd'hui, en tout cas, je parle pour la CARSAT-Rhône-Alpes, mais je pense que nous, aujourd'hui, on a réussi ce pari. C'est-à-dire que nos agents, aujourd'hui, systématiquement, dans les cas complexes, vont faire de l'aller vers via notamment le téléphone.
Alors c'est aussi l'exemple qu'il y a aujourd'hui avec des manifestations telles que celle-ci. Et puis vous l'évoquiez aussi, peut-être donner, informer les travailleurs sociaux de ce qui existe, des démarches à effectuer, et notamment dans les villes comme celle de la Ricamarie, c'est la mise en place de personnes dédiées aussi à ça. Cyril Bonnefoy, effectivement, ça, le constat que vous pouvez avoir sur ce pilotage, ce dispositif, TZNR, est-ce que les relations avec ces institutions se sont améliorées et peut-être se sont rythmées par une série de rendez-vous et de rencontres?
Je voudrais revenir juste sur une information, et ça corrobore la question que vous disiez tout à l'heure. C'est simplement, sur la Ricamarie, dans le cadre des quartiers politiques de la ville, il y a des financements qui sont organisés pour faire notamment de l'aller vers. On a notamment des médiatrices emploi, des médiatrices santé qui sont là et qui font en sorte d'être en proximité pour organiser l'accès aux droits des personnes les plus vulnérables qui sont les plus loin de justement l'accès aux droits. Il y a d'autres signes qui sont plutôt inquiétants en matière de santé et même d'accès aux droits. Je le dis, mais c'est l'espérance de vie dans les quartiers politiques de la ville qui est bien plus basse dans les zones populaires que dans les zones urbaines ou les zones où il y a un peu plus de richesse humaine et sociale. Donc ces difficultés-là, sont aussi des constats de l'accès aux droits et d'un des piliers de notre République, la question de l'égalité, qui est vraiment en rupture. Notre République est en difficulté sur ces zones-là et en intérêt d'être vigilant. Alors il y a des organisations qui manifestent qu'il y a une conscience qu'on est un peu faillible sur ces questions-là. Avec la médiatrice relais et les médiatrices emploi, médiatrice emploi pour l'accès aux droits des personnes les plus loin de l'emploi, donc pour permettre l'accès à France Travail, et les autres, la question de l'accès aux droits, notamment les cartes, les mutuelles et les passes, les permanences d'accès social, d'accès aux soins, pardon, eh ben, il y a quand même un constat où on le sait, mais on a du mal à aboutir, à tendre vers cette automaticité des droits. Ça, c'est la première. Je voulais intervenir sur ces questions-là. La deuxième interrogation que vous faites, c'est que sur le territoire zéro non-recours, ce qui a été mis en place a effectivement interroger les pratiques de chaque partenaire, y compris de la ville. J'en veux pour preuve, c'est tout bête, mais on a constaté que dans les parcours de vie, où il y a un changement de vie de la personne qui possiblement peut accéder au droit, on n'a pas forcément de réseau d'alerte qui nous dise, ben voilà, à un divorce, il y a tel droit qui peut être ouvert, et on n'arrive pas à essayer d'activer l'ensemble des partenaires pour que dans cet accident de vie, ben, il puisse y avoir un accès au droit automatique et qu'on réinterroge l'ensemble des partenaires sur le droit de la personne considérée. Comme il peut, au moment du départ en retraite à 62 ans, on n'interroge pas l'ensemble des pratiques, notamment sur la caisse primaire d'assurance maladie, sur d'autres questions. Donc il y a peut-être dans des parcours de vie, dans chaque personne, des moments d'interrogation qu'il faudrait avoir comme un signalement pour l'ensemble des partenaires pour qu'on puisse activer, automatiser l'accès aux droits et interroger tous les droits possibles. Et une autre question qui, à mon avis, a également beaucoup de sens, c'est la question, de manière générale, l'ensemble de l'accès au droit, l'ensemble des droits ouverts sont tous des organismes sociaux qui sont issus de la sécurité sociale. Un constat qui a été fait, je vous l'ai livré dans le comité de pilotage, c'est qu'en fait, il y a une plateforme cloisonnée entre chaque CARSAT, CPAM et CAF. Et ce cloisonnement ne permet pas d'interroger sobrement l'accès au droit et l'automaticité l'accès au droit dans ces parcours de vie, pour revenir sur les parcours de vie. Et là, ça mériterait, puisque vous êtes tous tenus au secret professionnel, ça mériterait qu'on s'interroge, mais pas que localement, mériterait une interrogation nationale, et j'espère qu'elle viendra à un moment donné. Mais une plateforme différenciée crée des freins à l'accès au droit global. Et pourtant, c'est le même organisme, un peu différencié, mais c'est le même organisme, et ça mériterait qu'on s'interroge sur ça. Alors il y a plein d'interrogations qui sont arrivées, même sur la suite du territoire zéro non recours, comment on va poursuivre, comment ça va s'élargir, comment on peut le porter, et il y a beaucoup d'intérêt. Mais bon, ça c'est d'autres problèmes, mais pour vous dire simplement qu'on s'interroge sur plein de choses, et c'est plutôt passionnant, et ce qu'on espère, en tout cas sur ces 3 ans, ce qui est certain, c'est qu'on a ouvert pour les Ricamandoises et les Ricamandois, énormément de droits, et ça, on n'arrive pas toujours à le mesurer. Il y a une pratique d'évaluation, il y a une évaluation qui est en cours. J'espère qu'elle sera florissante et qu'elle alimentera les réflexions pour le national.
Alors peut-être allons vers un regard panoramique, un peu extérieur. Quand je dis un peu extérieur, c'est rapport à la ville de la Ricamarie principalement, et puis des structures que l'on a ici avec la CARSAT et la CPM, avec Delphine, bonjour, du comité de pilotage TZNR au niveau national pour le Secours catholique, et puis Dominique Vienne, membre du Conseil national à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion pour ATD Quart-Monde. C'est pas nouveau. Alors peut-être Dominique Vienne, c'est pas nouveau l'exclusion sociale. ATD Quart-Monde, si l'on reprend un peu l'historique, sans faire l'historique, ça date depuis de très nombreuses années. Il me semble que ça doit être 1957.
57,
quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, 70 ans.
Bah, ça va faire 70 ans, oui.
Ouais, donc 70 ans de constatation d'inégalité, bah, d'exclusion.
Ça a démarré par une présence dans les camps de sans-logis, hein, dans les années 50, où on reconstruisait la France et où malheureusement, comme il y avait eu beaucoup de destruction, les gens vivaient dans des camps, dans des conditions déplorables. Et donc l'idée, ça a été de travailler avec les personnes qui vivaient dans ces camps pour ensemble essayer de s'en sortir. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ont été créés à la fois des groupes de parole, hein, des considérations pour que les femmes puissent, pour que les dames puissent se trouver à l'aise d'une certaine façon. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux dans la création de ce qu'on a appelé les universités populaires, de façon à faire remonter les problématiques et pouvoir les porter auprès des pouvoirs publics. C'est surtout ça qui a été fait à ce moment-là. Des actions qui étaient beaucoup basées autour de la culture, voilà, de façon à ce que les personnes puissent se prendre en main et travailler elles-mêmes, ce qu'on appelle chez nous les militants, travailler elles-mêmes à trouver des solutions en rapport avec leurs difficultés et à les porter auprès du pouvoir public.
Alors, beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Conseil national à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ? Quel est votre rôle ?
Alors, le rôle du Conseil national, c'est justement aussi de porter ces problèmes auprès des pouvoirs publics. Alors, le Conseil national de lutte contre les exclusions, le CNLE, a beaucoup évolué. Le Conseil national de lutte contre les exclusions a été créé en 88, au moment de la loi sur le RMI, avec Michel Rocard. Et c'était, le CNLE a été créé à ce moment-là pour contrôler, pour évaluer la mise en place de la partie I du RMI, qui n'a jamais bien fonctionné, hein, l'insertion. Enfin, le but, c'était ça. Et progressivement, dans les années 2010, on a considéré qu'il fallait absolument que les personnes concernées fassent partie de ces réflexions autour de la grande pauvreté. Hein, puisque progressivement, le CNLE s'est saisi de ces problèmes d'exclusion et de pauvreté. Et donc, autour des années 2010, cette réflexion s'est faite de comment insérer les personnes concernées dans ce conseil. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé ce qu'on a appelé un huitième collège, avec un certain nombre de personnes, huit seulement à ce moment-là. Et autour des années 2020, ça a évolué, et les personnes concernées ont pris la moitié des postes, il aurait été proposé de prendre la moitié des postes des 64 personnes qui font partie du CNLE. Donc parmi les 64, on a la moitié, 32 personnes qui sont des personnes concernées. Elles s'appellent comme ça d'ailleurs. On a fait une discussion, elles ont souhaité s'appeler les personnes concernées. Donc effectivement, le but, c'est de travailler sur... Alors le CNLE dépend du Premier ministre. C'est un organisme public qui est créé autour du Premier ministre pour le conseiller, à la fois sur des saisines du Premier ministre, et on en a une à l'actuelle, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et des saisines du gouvernement. Le CNLE peut aussi s'autosaisir sur des problèmes d'actualité. Et donc le but de tout ça, c'est de réfléchir tous ensemble avec les personnes concernées sur les solutions qu'on peut apporter, à la fois sur ces saisines ou sur les problématiques dont on se saisit nous-mêmes.
Alors on parlera tout à l'heure effectivement de cette volonté d'implication. Les personnes concernées, c'est aussi ça, l'objectif, c'est récolter les besoins, récolter les doléances et puis demander la réalité d'une vie que l'on peut avoir avec un regard un peu plus éloigné. Au niveau du comité de pilotage de territoire zéro non-recours, niveau national, Delphine, bonjour, vous avez une vision un peu plus globale que celle simple de Larry Camari. Une trentaine de...
39.
39, voilà, c'est un peu moins de 40 territoires. Quel est le rôle de ce comité de pilotage? Comment vous agissez dans ce comité-là?
Alors tout d'abord, les associations dénonçaient depuis des années en fait cette question de non-recours. Et quand le président de la République nous a sollicité pour construire un plan de lutte contre la pauvreté, on a eu l'idée de proposer ces territoires non-recours avec l'idée vraiment de mobiliser en fait sur des petits territoires tous les acteurs concernés. Et finalement, ça a été adopté par l'Assemblée, enfin le Parlement, en 2022 et mis en place progressivement. C'est intéressant cette expérimentation. Et ce qui ressort déjà, c'est que ce qui a bien marché en fait, c'est justement la mobilisation des partenaires en fait. Les partenaires ont davantage travaillé ensemble, se sont parfois découverts, ont échangé leurs pratiques et ça a donné beaucoup de bons résultats. Toutes les questions d'aller vers aussi, ça a beaucoup fonctionné avec beaucoup d'imagination, de nouveaux outils, de formation à l'aller vers. C'est des choses qui sont un peu moins bien développées. C'est par exemple la question de la participation et puis les difficultés liées au partage des données. Alors le comité de pilotage, il est chargé justement de soutenir en fait toutes ces expérimentations. Il y a toute une communauté en fait qui échange les difficultés, les bons outils, les réussites, etc. Donc ça permet de se soutenir. Et puis nous, effectivement, on propose une évaluation assez poussée puisqu'on doit rendre un rapport en fait au Parlement courant de l'été, puisque normalement l'expérimentation se termine à la fin de l'année. L'expérience de Ricamari est très intéressante parce qu'elle est peut-être plus originale que beaucoup d'autres, en ce sens qu'effectivement elle a été posée, proposée et portée par pas mal d'associations, le Pacte du pouvoir de vivre, en lien avec la mairie, donc une alliance vraiment intéressante et bien sûr rejointe par les organismes sociaux et les institutions. Et cette notion d'implication des habitants qui est beaucoup plus développée qu'ailleurs, évidemment qui est très riche aussi et qu'il faudra absolument essayer peut-être de poursuivre par la suite.
Alors, c'est une expérimentation qui va arriver à son terme avec, vous l'avez évoqué, le rendu final à venir. 3 ans de travail sur différents territoires, sur différents terrains. C'est de l'investissement, beaucoup d'investissement. À quelques semaines, finalement, de ce rapport qui va conclure cette expérimentation, qu'est-ce que vous attendez au niveau du comité de pilotage au niveau national de ce territoire zéro non-recours ? Qu'est-ce que vous, alors je ne sais pas si vous avez le droit aussi de l'évoquer, mais qu'est-ce que vous voudriez avoir comme suite ?
Bien sûr, on fera des recommandations. Je ne peux pas forcément
les
proposer aujourd'hui. On fera des recommandations de poursuite. Le bilan est globalement très positif. Alors peut-être que ce ne sera pas sous le même format qu'aujourd'hui. Là, il y a eu une sorte de mobilisation un peu exceptionnelle. Il y a eu des fonds de l'État aussi qui ont permis d'embaucher un certain nombre de personnes pour coordonner localement. Mais les collectivités aussi se sont beaucoup impliquées. Il y a, dans beaucoup d'expérimentations de territoires, il y a des CCAS, des communes, des intercos, parfois des départements qui ont pris le leadership et qui ont aussi beaucoup contribué financièrement. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont déjà très positifs. On voit qu'il y a même ici, il y a beaucoup d'ouverture de droits, une meilleure information, des nouveaux outils, beaucoup plus de formation aussi à l'aller vers, parce que de changement de pratique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, évidemment, on va demander, alors, est-ce que ce sera une poursuite d'expérimentation ou une évolution, en tout cas, de ces territoires, peut-être avec un cadre un peu différent. Il y a aujourd'hui pas mal de territoires, en fait, qui seraient candidats pour faire la même chose.
Pour faire la même chose. Si l'on parle des organismes sociaux, une expérimentation à laquelle vous êtes lié et impliqué, est-ce que les modifications que vous avez pu faire dans vos fonctionnements vont être pérennes ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui aussi est de l'ordre de la volonté et de l'évolution de vos structures ?
Oui, alors complètement, effectivement, on ne sait pas effectivement quelle sera la suite sur ce territoire zéro non-recours. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un avant et un après. Ça a permis effectivement de créer aussi du lien entre les partenaires. Et comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que la question des échanges de données sur lequel on était assez frileux aussi. Je pense qu'on a vraiment franchi un cap par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, on restera engagé sur ces territoires parce que c'est hyper important. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, sur la question de la territorialisation. C'est-à-dire qu'on est passé de logique un peu monolithique où on intervenait de la même façon sur partout. Et maintenant, on essaie d'intervenir de façon différenciée là où il y en a le plus besoin. Et voilà. Et donc, s'il y a encore des choses à faire, on sera présent et à vos côtés pour l'avenir.
Et je voudrais juste ajouter, pour répondre à monsieur le maire tout à l'heure, bien entendu aussi, le rôle du comité de pilotage, c'est de collecter aussi toutes ces informations et toutes ces améliorations possibles. Dans un autre cadre, moi je travaille avec un petit groupe qui dialogue de façon très régulière avec la gouvernance de la CNAF. Donc c'est aussi des choses en fait qu'on leur fait remonter pour pointer du doigt en fait tous les dysfonctionnements dont ils n'ont pas toujours conscience en fait, même s'il y a toujours volonté d'améliorer les courriers, les démarches, etc. En fait, on voit bien que c'est tellement complexe, il y a aussi tellement la peur de la fraude, qui fait qu'on complexifie toujours les démarches au détriment finalement des usagers.
Effectivement, au détriment des usagers et puis décourager aussi, parce que c'est peut-être ça le mot qui revient souvent, c'est décourager, parce que l'administration est rude, est longue, les démarches sont difficiles, les personnes concernées, c'est aussi important. Aujourd'hui, on revient avec vous, Dominique Vienne, quand on parle de personnes concernées, l'idée d'impliquer ces personnes-là, notamment au niveau du CNLE, de les impliquer, d'avoir des représentants, comment ça peut se traduire à une échelle plus locale ? Est-ce que dans différentes sections d'ATD Quart-Monde, c'est aussi quelque chose qui est travaillé, qui est l'idée d'aller de proposer aux habitants, de leur dire vous pouvez vous investir, vous pouvez faire remonter vos interrogations, vos envies, etc. Est-ce que ce côté-là ouvert aux personnes concernées, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien ?
Oui, moi je dirais que c'est la base de l'action d'ATD Quart-Monde. Travailler avec les personnes concernées, c'est vraiment notre façon d'agir depuis le départ. depuis le départ, l'idée, je le disais tout à l'heure, dans les camps de son logis et maintenant dans les quartiers où on agit, c'est de travailler avec les personnes concernées, hein, de faire remonter les problématiques, de faire remonter, parce qu'on considère que la solution à la grande pauvreté ne peut venir qu'à partir d'elle. Donc le but, c'est de travailler avec ces personnes, de comprendre leurs problèmes et de faire remonter toutes ces problématiques auprès des pouvoirs publics. C'est ça le rôle essentiel d'Atelier Quart Monde, voilà. Et donc on le fait dans les quartiers depuis le début, ça c'est dans les gènes du mouvement. Mais ce qu'on veut faire aussi, et je veux insister là-dessus, c'est que dans les institutions, cette intervention des personnes concernées se fasse de façon de plus en plus développée. C'est ce qui s'est fait au CNLE, c'est ce qui se fait par ailleurs au niveau du CESE, vous le savez, hein, le Conseil économique, social, environnemental a fait un certain nombre de conventions où des personnes concernées aussi sont intervenues sur des problématiques qui étaient posées. Voilà, le but, c'est aussi, dans les quartiers, je pense que maintenant le pli est pris par différentes associations, mais le but, c'est aussi que ces personnes-là soient présentes dans les institutions.
Alors, tout ça, c'est toute la difficulté aussi, parce qu'on est quand même... On a des gens qui, je vais réemployer ce mot découragé, parce que c'est finalement ce mot qui existe en fait, résigné, la résignation. Comment on change au niveau d'une municipalité, comment on peut dire à ses habitants d'une ville que leur voix peut être entendue? Ça c'est quand même, parce que pendant des années, c'était des gens muets ou pas entendus. Où leur parole n'était pas forcément la plus écoutée. Alors, je parle d'une manière globale, hein, bien sûr, je ne pointe aucune municipalité, mais c'est ce côté-là qui est quand même un peu compliqué aujourd'hui de redemander aux personnes de s'investir.
Alors, pour revenir sur l'expérience de Territoire Zéro Non-Recours, on a beaucoup évoqué la notion de présence des usagers, qui faisait partie, du coup, de l'équipe et de l'expérimentation, qui est même au cœur de l'expérimentation. Les usagers ont apporté cette réalité-là, c'est une forme d'horizontalité, de solidarité. Elles ont été voir des personnes qui sont dans la même situation qu'eux, du coup, elles ont recréé la confiance qui était indispensable en direction des structures, des assistantes sociales du CCS ou du département, mais également de la CAF, de la CARSAT, de la CPM. Il y a cette présence horizontale qui est nécessaire et cet indispensable travail de proximité, d'horizontalité avec un public bénévole qui va voir des personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Donc du coup, cette confiance a été réinstaurée grâce à cette présence-là. Il n'empêche que ça restera difficile si nos services, si les services de l'État n'arrivent pas à créer cette volonté collective d'accéder aux droits, mais de manière, je veux dire, institutionnel, organisé, instauré, installé. C'est d'une complexité extrême aujourd'hui, parce qu'il faut réussir à passer le premier palier, c'est-à-dire la rencontre avec le travailleur social de proximité qui codifie son rapport à la personne. Dans cette codification-là, répond à des besoins. Et dans ces besoins-là, on rentre dans l'intimité de la personne. Et parfois, est amené à dire non à la personne. Et ce non-là, dans une difficulté extrême, n'est pas entendu par la personne et empêche finalement, à terme, quand c'est nécessaire et quand c'est possible, d'accéder et de retourner voir l'assistante sociale après avoir eu un non ou une démarche coercitive en direction du public qui peut être concerné. Donc ça crée déjà un premier frein. Et les autres freins sont effectivement la complexité de l'accès au droit, l'exaspération devant la difficulté de l'accès au matériel numérique. Toutes ces questions-là qui font que les personnes, au bout d'un moment, se lassent et ne demandent plus leur droit qui, en théorie, pourrait être ouvert. Donc, il nous faut réinstaurer un mode de fonctionnement qui soit plus pédagogique, plus ouvert, moins coercitif en première intention, réinventer les choses comme ça l'était, j'allais dire, hier. Hein, je suis un petit nostalgique d'hier, mais hier, un travailleur social, il n'était pas dans la démarche de coercition. La coercition était organisée à un autre niveau. Et il accompagnait la personne, il était simplement dans l'accompagnement, et puis après, le non, il s'observait. Il faut distinguer celui qui accompagne de celui qui dit non. Je ne sais pas si je suis clair dans mon intervention. Bah, celui qui accompagne, s'il ouvre tout de suite en proximité de la méfiance et dit non, la personne ne reviendra plus le voir.
Et donc il y a une vraie réflexion à avoir de la manière dont sont organisés nos services en première intention. Et puis je le disais tout à l'heure aux membres du pacte de pouvoir de vivre, cela doit interroger l'ensemble des services au-delà de ceux qui sont dans l'expérimentation territoire zéro non-recours. Nos services d'accueil, on doit être souple, on doit pouvoir amener de la confiance, les services d'accueil des mairies, les services d'accueil du département. On doit interroger également notre accès au droit à l'état civil quand on demande des papiers pour notamment les questions de mariage, les questions de décès, qu'on soit bienveillant, pétri d'empathie. Et tout ce travail-là, ça demande une réinterrogation collective. Quand les personnes ont eu des noms, quand les personnes ont une méfiance, quand les personnes sont en extrême fragilité, les noms sont très mal entendus et c'est repoussoir pour un autre rapport au moment où les questions de droit sont posées.
Alors en tout cas, c'est une réflexion engagée avec des actes qui ont été mis en place, et l'on parle encore de ce territoire zéro non-recours sur 39 territoires au niveau de la France. Pour terminer un peu cette discussion, cette première discussion de cette matinée, dernier tour de table, David Ravel, Fabrice Paris, qu'est-ce que vous attendez, vous et vos agents ici présents, de cette journée-là et de ce rendez-vous? C'est quoi l'objectif quand vous êtes installé ce matin, vous vous êtes dit, on repart avec quoi ce soir?
Bah écoutez, notre objectif, il est d'assurer pleinement notre mission de service public. En ce qui me concerne, c'est celui de la retraite. Donc, c'est informer, c'est être en capacité d'accompagner. C'est aussi accompagner les aidants, hein, puisque c'est aussi une population dont on parle peu, mais qui existe et qui est là. Et puis, sur notre stand, on a aussi la partie action sociale, hein, puisque nous avons une partie action sociale assez importante, où là, on parlait tout à l'heure aussi de prévention, où on travaille sur la question du bien vieillir. Donc en fait, ce qui va compter pour nous, c'est à chaque fois, que ce soit ici, ça a été le cas à Grenoble ou ailleurs, d'être à la rencontre des habitants et parfois de montrer une image qui est une image un peu différente que les usagers, les citoyens peuvent avoir globalement de l'administration publique.
Voilà, de dépasser le logo et de mettre des visages derrière ce logo-là qui représente vos structures. Pour vous, David Ravel?
Oui, je pense un peu la même idée. En tout cas, j'étais assez sensible aussi à ce que vous disiez, Monsieur le Maire, tout à l'heure sur la notion de confiance. Voilà, cette confiance, il faut parfois la retrouver aussi. On la retrouve aussi par rapport à ce type d'événement, parce qu'il y a tout un travail qui est fait en amont de communication. Les personnes qui viennent aussi connaissent les relais locaux, connaissent les travailleurs sociaux. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui permet d'engager plus facilement les échanges. Et derrière ça, nous, concrètement, c'est pouvoir aider des gens dans le parcours de soins. Parce que vous l'avez dit, c'est compliqué. Et donc, si on peut trouver des solutions déjà à des personnes qui, parfois, ont pas mal de sujets de préoccupation, si on peut effectivement leur enlever une épine de pied pour retrouver plus facilement un rendez-vous chez un professionnel, avoir peut-être moins de reste à charge sur des soins médicaux. Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler, effectivement. Et le but, c'est de pouvoir rencontrer et aider des personnes très concrètement au cours de cette journée.
Alors Delphine, bonjour. Vous, j'imagine que c'est une action qui va encore être remontée au niveau du comité de pilotage TZNR. Le regard que vous portez, c'est quoi peut-être? Regarder comment ça se passe et pourquoi pas le proposer?
En tout cas, un regard très positif. C'est vraiment, je suis très contente d'être là et de voir comment ça se passe, de rencontrer tous les partenaires. Et puis j'espère aussi peut-être une petite invitation aux organismes à peut-être aussi à de temps en temps avoir des temps de rencontre avec des usagers, justement pour entendre justement les démarches qui vont pas bien, les parfois vous passez à côté, c'est normal, il y a des choses qui vous voudriez faire que vous faites pas, que pourriez faire peut-être un petit peu mieux, des courriers à modifier. Donc je peux que vous inviter comme mon collègue d'ATD à parler, à rencontrer des usagers régulièrement.
Je vous rassure, je crois que c'est là aussi, il faut que vous ayez en tête la question de la modernisation, notamment à la sécurité sociale, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un parcours usager qui est conçu sans qu'aujourd'hui on échange avec nos partenaires et les personnes concernées. Pour reprendre votre expression.
Voilà, une réponse qui se continuera sûrement autour des stands. Pour vous, Dominique Vienne, le regard que vous portez et l'envie avec quoi vous voulez repartir?
Oui, non, mais c'est toujours très intéressant de vous écouter, d'écouter les problématiques dans les différents territoires. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est sur les difficultés de la participation. La participation, c'est quelque chose de très exigeant. Et ça demande de la préparation, ça demande de l'écoute, ça demande de la bienveillance. C'est pas toujours facile. Il y a parfois des déceptions parce que les gens ont l'impression que tout le travail qu'ils font n'aboutit à rien. On le vit régulièrement, soit au CESE avec les conventions citoyennes, soit au CNLE. Il y a de plus en plus, il y a en tout cas à l'heure actuelle, une certaine déception et une problématique sur à quoi sert-on ? Est-ce que vraiment les propositions qu'on fait vont jusqu'au pouvoir public ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et donc il faut absolument qu'on soit bienveillant là-dessus, qu'on fasse comprendre que oui, même s'il n'y a pas d'action directe, même s'il n'y a pas de concrétisation immédiate, ça sert absolument à quelque chose parce qu'il y a toujours cette petite musique des propositions qu'on fait et qui inévitablement arrive aux oreilles des pouvoirs publics et qui permet de faire progresser les choses. Mais c'est quelque chose, vous voyez, il y a un découragement qu'il faut... Et ceci, ça nécessite beaucoup d'accompagnement pour être à côté des personnes qui participent. Voilà, entre autres.
Mais peut-être aussi, il faut communiquer aussi sur les améliorations. Ça, on ne le fait peut-être pas assez.
C'est peut-être aussi, on pointe ce qui ne va pas, mais effectivement, avoir un regard sur ce qui s'est amélioré est aussi important. Et chacun a pu essayer d'y répondre. Cyril Bonnefoy, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous-là, de ce 20 mai, ici, Place Raspail ?
Écoutez, moi, ce qu'on vient de symboliser autour de ce tour de table, c'est l'indispensable nécessité d'altérité, c'est-à-dire de cheminer avec des personnes différentes, de sorte à ce qu'on soit touché par la rencontre de l'autre. C'est finalement réfléchir sur la question de la proximité, réinterroger nos fonctionnements eu égard à la complexité des territoires, et réfléchir sur la notion d'égalité, c'est un peu l'enjeu de cette présence, c'est-à-dire de faire en sorte que dans des territoires plus marqués, où les indicateurs sociaux sont moins bons qu'ailleurs, et bien qu'il y ait une présence accrue des services de l'État. Et j'en profiterai par cette prise de parole pour remercier l'État qui, quand même, à hauteur de 80% de cette expérimentation sur 3 ans, a participé, a concouru à l'organisation notamment de cet événement, a concouru parce que par cette participation à s'interroger sur leur fonctionnement, parce que ils sont interrogés par leur fonctionnement et sur la question de l'accès aux droits, et du coup quelque part, le fait que ça soit sur la Ricamari ou sur d'autres territoires nationaux, ils savent qu'il y a des manquements de ce côté-là. Pouvoir se remettre en question par leur participation, c'est un élément très intéressant, ça veut dire que ce n'est pas un État monolithique. Il s'interroge et c'est plutôt intéressant. Remercier l'ensemble des professionnels qui œuvrent et travaillent au quotidien dans les différents services d'État, des différents services d'organismes sociaux, France Travail également, mais l'ensemble des services d'aide à la personne de manière générale, parce que ce sont eux les fers de lance et qui sont cette oreille indispensable, cette reformulation indispensable pour que les services évoluent. Il est indispensable que les professionnels ne restent pas sur leur travail exclusivement d'accompagnement, mais que les difficultés puissent être remontées pour que le service public soit le plus pertinent et que les personnes reçues en fragilité soient les mieux accompagnées et que les services publics s'adaptent à ces enjeux-là. Il y a vraiment, dans cette expérimentation-là, plutôt une source d'espoir, une source d'inspiration pour que l'État puisse, grâce à leur financement, finalement, par cette expérimentation-là, s'interroger et ouvrir des perspectives nouvelles pour que la sécurité sociale du 21e siècle puisse être au plus près des habitants, peut-être par des mécanismes de simplification qui ont été pensés par la fluidité des rapports entre les différents travailleurs sociaux.
Alors, merci pour cette conclusion et cette ouverture. Pour la suite, c'est terminé pour cette première table ronde de cette journée. Merci madame, merci messieurs d'être venus ouvrir ce direct sur l'antenne de Radio Ondaine à l'occasion de la journée des droits sociaux. C'est à la Ricamari ce mercredi 20 mai. C'est toute la journée. Merci à vous.